Bayeux is a New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Nous sommes au Morning OS dans la salle du serveur du collectif BAM. Un grand merci à eux. Quelques oreilles attentives nous écoutent, ce sont celles de Lisiane Lagadic, Marie Truffier, Michael Pommier, Judith Krief et Lisa Dehove. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous invite à intervenir, poser vos questions ou y répondre. Pour planter le décor, voici les deux personnages. Arthur Donald Bouillet, poète au cœur de la matière. Xavier Montois, Kafka des temps modernes. Nous diffusons la seconde partie de notre interview où nous discutons du design entre vivant et artificiel. Vous pouvez retrouver la première partie de cette interview dans la page de l'émission.
Bio is the new black.
Pour cette deuxième partie, j'aimerais bien interroger deux couples un peu particuliers entre naturel et artificiel, humain et non humain. Vraiment qui font partie à part entière de la pratique que vous avez, Xavier et Arthur surtout. Et je vais commencer par une question très générale que je me pose moi-même. Et enfin, j'espère qu'on sera un peu en co-construction dans ce dialogue. Comment est-ce que vous avez adapté vos pratiques pour travailler sur des sujets qui concernent les vivants, à travers ces couples-là, et peut-être il y en aura d'autres qui apparaîtront, naturels, artificiels, humains et non humains. Peut-être commencer avec toi, Arthur. Je sais que ça a peut-être profondément changé, enfin, en tout cas, tes pratiques. Quand je dis comment, je pense à des questions d'outils. Peut-être dans un premier temps, la fiction, l'écriture. Comment est-ce que peut-être, l'installation, la modélisation 3D. Enfin, au final, comment aussi on fait pour adapter ces outils en tant que designer pour s'emparer de sujets qui sont effectivement aussi vastes, mais aussi peut-être tellement présents, enfin tellement importants à traiter aujourd'hui.
Arthur Donald Bouillet.
Alors effectivement, ces fameux couples qui sont quand même très complexes, qui mêlent quand même énormément de choses. Moi, j'ai essayé de commencer à les développer quand je me suis intéressé à la notion de matière, enfin de vivant, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le vivant et du coup son opposé, le non-vivant déjà. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Et donc, totalement relié à la notion de naturel et d'artificiel aussi, cette idée de vouloir reproduire le vivant, pardon, ou de limiter. Et puis, petit à petit, forcément, en fait, toutes ces questions, elles sont très vite rejoint les notions d'humain et de non-humain, en tout cas les relations qu'il pouvait y avoir entre ces deux entités qui sont en apparence écartées. Mes outils, ça a été beaucoup la fiction, l'écriture, enfin, la fiction au sens, c'est-à-dire raconter des histoires, comme pourrait d'ailleurs en parler Donna Haraway, des histoires dans lesquelles il y a des interactions nouvelles, des assemblages entre des humains ou des non-humains, des molécules et des atomes, des choses qui sont en apparence inertes, mais qui deviennent peut-être vivantes, au travers d'une relation nouvelle, ou d'un tissage de relations. Et puis en parallèle, il y a aussi, il y a d'abord la fiction, qui pour moi a été quelque chose de très important, qui est donc toujours aujourd'hui. Et puis il y a aussi l'exploration ou l'expérimentation plastique qui est complètement libre, avec laquelle je n'envisage pas de répondre à des problématiques, où c'est simplement des confrontations entre ce que je pourrais considérer comme du vivant ou du non-vivant. Et en fait, c'est ces deux éléments-là, ces deux outils-là. J'ai plutôt mis de côté en fait les outils numériques, même s'ils m'apportent plein de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux outils qui ont beaucoup changé les choses pour moi. Aujourd'hui.
Pratique de l'écriture.
Pratique de l'écriture et exploration plastique par le dessin.
Par le dessin, ouais. D'accord. Donc finalement, tu reviens à des outils très basiques.
Exactement.
Premiers outils, quoi.
Et typiquement, par rapport à l'écriture, je me suis demandé sachant que je voulais parler de vivant et de non-vivant, comment dans l'écriture, j'arrive à transmettre ces deux notions, quoi, ou l'entre-deux, parce que finalement, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'entre-deux, quoi. C'est-à-dire que... il se passe plein de choses, en fait, dans cette zone-là, quoi. La frontière, la lisière, l'entre-deux. Baptiste Morisot pourrait pas mal en parler aussi. Évidemment, le mot, en quoi il porte lui-même quelque chose de vivant ou de non-vivant, comment j'arrive à communiquer à travers des phrases, à travers un texte, un imaginaire qui lui-même peut être vivant, quoi, en fait.
Ouais, je pense qu'on reviendra là-dessus. On va lire tout à l'heure un des textes que tu as écrit.
Xavier Montois.
Regardez, déjà, alors si on peut considérer ça comme un outil, mais c'est le... bagage culturel ou littéraire en fait sur toutes ces questions-là. Parce qu'il y a notamment après iGEM où je me suis pas mal intéressé, j'ai lu pas mal de livres, enfin d'auteurs qui traitent ces questions-là. Et il y a une citation de Jean Rostand qui m'avait pas mal marqué, qui est « Toute discipline, à mesure de ses progrès, tend à modifier plus ou moins profondément les idées qu'elle se forme sur les réalités fondamentales. Ainsi en va-t-il pour la physique des notions de matière et d'énergie, pour la biologie des notions de personne, de sexe, de reproduction, de vie et de mort. » Et donc même si la citation elle date de 1960, je trouve qu'elle est... vraiment d'actualité, notamment au vu de la biologie de synthèse, puisque là, ça remet en question vraiment les notions d'artificiel et de naturel. Parce que justement, un OGM, donc un organisme génétiquement modifié, c'est à la fois naturel, puisque c'est une bactérie, un organisme, et en même temps artificiel, puisque ça a été modifié par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'on vient modifier l'ADN de ces bactéries.
Ouais, du coup, effectivement, t'as cet exemple de l'OGM qui est très, disons, précis, à la limite, identifiable, et qui a été très identifié. Mais je pense à un auteur, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Willem Flusser, qui a écrit pas mal de courts textes et d'essais dans un essai sur la nature et la culture. Et notamment, il y en a un sur la vache, où il décrit la vache comme une machine biotechnologique de très haute performance. Et finalement, il replace la vache comme un système de production. Ce qu'il fait là comme ça, c'est ce que tu décris sur les OGM, mais c'est qu'au fond, est-ce que ça a vraiment une vertu pour nous ? Est-ce que ça fonctionne d'utiliser ce couple naturel-artificiel ? Ou bien est-ce qu'au fond, on est en train de percevoir quelque part sa vacuité quoi, à plein d'endroits ?
C'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on cherche à classifier les choses entre naturel ou artificiel ? Et je pense que c'est pour pouvoir porter un jugement de valeur en fait sur les différentes choses. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est naturel, dans ce cas-là, surtout aujourd'hui, on aura plutôt tendance à avoir un jugement positif dessus, parce que c'est biodégradable, parce que c'est la nature, donc ça sera forcément mieux réalisé que si c'était l'homme. Et justement, artificiel, où là, c'est polluant, c'est des problématiques, etc. Et en fait, je sais pas s'il y a vraiment un sens aujourd'hui à vouloir distinguer artificiel ou naturel.
Ça me fait penser à quelque chose. Pour la biologie de synthèse, on va parler donc d'un organisme qui est artificialisé, quoi. Parce qu'on le déforme, on le transforme, mais au jour le jour, on a des interactions constantes avec des choses qui nous transforment aussi, quoi. Et donc, quelque part, est-ce que l'artificialité, là-dedans, alors c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose qui est en rapport. Je trouve, là-dedans, pour moi, c'est comme si ce couple ne voulait plus rien dire.
Mais tu citais Haraway tout à l'heure, et puis dans tes textes, je pense que t'as le bestiaire de Haraway qui revient, et puis ses expressions. Effectivement, on se rend compte que les grandes catégories de pensée, nature, culture, celle-là et puis d'autres, elles nous aident pas en fait à tisser des liens et des relations avec d'autres. Peut-être pour citer un auteur qui là peut nous aider, enfin en tout cas qui est peut-être une lecture commune ou en tout cas au moins une écoute commune, qui serait Baptiste Morisot. Et qui effectivement lui plutôt que de parler de nature qui voit comme un terme en fait très excluant où l'homme exclut de ce terme-là, il préfère parler de vivant et donc puisque c'est vivant ça nous concerne puisque nous aussi nous sommes vivants et puis comme la situation nous concerne, cette situation d'être vivant peut nous importer et à partir du moment où cette situation nous importe, elle a une certaine valeur et elle fait valoir un certain nombre de choses pour lesquelles on peut, souvent on dit on peut se battre, mais en fait pour lesquelles on peut se positionner. Et pour amener un petit peu un autre éclairage à cette question, j'avais lu quelque chose, une idée que je trouvais intéressante chez Isabelle Stengers, qui est une philosophe des sciences, et qui se questionnait un petit peu sur les droits qu'on pouvait donner à la nature, les droits qu'on pouvait donner à une rivière, notamment par exemple. Est-ce que c'était ça, entre guillemets, qu'il faut faire, qu'il fallait faire, ou est-ce que on pourrait pas imaginer des zones de négociation un tout petit peu différentes où chaque acteur finalement de cette situation, de ce territoire entre guillemets, serait représenté et on pourrait au fond représenter toutes les situations qui importent à chacun des acteurs et à partir de ces zones d'importance questionner la pertinence de ce qu'on va chercher et du, bah voilà, de cette zone de négociation qu'on vient de trouver, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me, je trouve que cette question, voilà, de la pertinence et d'aller chercher ce à quoi nous tenons, ce qui nous importe, je trouve que ça nous aide bien à débloquer ces choses-là. Puis on discutait un peu tout à l'heure en off du fait que, au fond, ça nous repositionne assez, de manière assez intéressante en tant que designer, puisque bon, enfin, voilà, on peut dire des grandes espèces de grandes phrases qu'on entend tout le temps, le design est human-centered, enfin, centré humain, centré utilisateur, etc. Et puis au fond, quand on analyse les situations comme un système, ou en tout cas un écosystème de relations entre humains et non-humains, au fond, ben, le design, il est plus centré qu'humain, il est plus centré qu'usage, il devient potentiellement d'autres choses, qui sont des choses que vous explorez, quoi.
Justement, je pense que, comme tu le dis, il y a la question de la posture et de comment on se positionne vis-à-vis des non-humains ou alors des non-humains, oui. Et je pense que c'est pour ça que c'est primordial, un peu comme le dit Baptiste Morisot, de sortir de cette dualité entre artificiel et naturel pour pouvoir tisser des nouvelles relations en fait avec ces espèces-là. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que la situation dans laquelle on est et la posture qu'on a vis-à-vis du vivant, que ce soit les animaux qu'on exploite ou qu'on élève en batterie, ou les plantes qu'on cultive sur des champs énormes avec des intrants chimiques, etc., c'est plus du tout tenable. Et en fait, en sortant de ce rapport entre naturel ou culturel, et en se positionnant dans une sorte de lien, en tout cas, avec les non-humains, ça nous déporte justement pour penser autrement ces liens. Pour travailler sur les questions du vivant, en fait, déjà, il y a la question qui se pose de travailler vraiment avec du vivant. Pour un de mes projets, j'ai travaillé en collaboration ou pas, je sais pas, avec des cafards. Et en fait, bah déjà, ça oblige à avoir une relation directe avec le vivant. C'est-à-dire que, on doit commander des cafards qui arrivent par la poste. Ensuite, se dire, OK, bon, qu'est-ce que je vais faire de ces cafards? Donc, acheter un vivarium. Ensuite, accepter de devoir les toucher, de les prendre. Et en plus, bon, c'est pas n'importe quel insecte, c'est des cafards. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des trucs les plus dégoûtants. Et en plus, il fallait les opérer. Je sais pas s'il faut que je rentre en détail dans le projet.
Ce projet-là, moi, je pourrais, enfin, je sais pas, dire ce qui m'a laissé et ce qui m'a, tu vois, toutes les émotions qui m'ont transporté quand j'ai notamment regardé une de tes vidéos. Donc, on voit ce que j'appellerais une forme de rituel, un balai, où des cafards ont effectivement subi une forme d'opération chirurgicale. Ils sont équipés d'un petit Arduino qui les téléguide dans un espace fermé à partir de bruits, enfin de sons, qui sont des sons plutôt méditatifs. Et moi, j'ai été transportée à la fois dans une espèce d'imaginaire de ce qu'on pourrait avoir avec une expérience à l'ayahuasca, tu vois, avec ces chants de chamans qui te transportent. Et à la fois, il y avait une espèce de beauté à venir, orner avec des parures, ces cafards, aller mettre dans une forme où la chorégraphie qu'ils forment, elle est belle, elle est perturbante. Je pense que t'as aussi joué dans la vidéo sur les effets de miroir et de symétrie.
Un peu kaléidoscopique.
Tout à fait, ouais, qui accentue ça. Et donc oui, bon, effectivement, en tant que designer, tu te retrouves à faire des opérations chirurgicales. Donc
oui, c'est ça. Mais même aussi à ce que... à reconsidérer autrement ce qu'est un objet de design. C'est-à-dire que ce projet-là, bon, c'était mon projet de diplôme, et moi, j'étais persuadé que pour mon diplôme, j'allais faire des objets que je présenterais, etc. Et en fait, là, de présenter une vidéo, alors plus précisément d'un spectacle de danse synchronisé réalisé par des cafards guidés par des puces électriques, ben, ça se rapproche plus de la performance, du spectacle de danse, je sais pas, mais en tout cas, ça oblige en tant que designer à accepter d'autres médiums pour partager ses réflexions ou ses pensées sur un sujet. Et ça, c'est assez intéressant.
Ce qui est pas simple dans des écoles de design. Enfin, pas simple, je veux dire, et à faire en sorte que ce soit accepté aussi. Quoi. Oui.
Après, je trouve qu'on a la chance, c'est une école qui est quand même assez ouverte sur ces questions-là. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Même au moment du jury.
On peut en parler de manière un peu commune parce que, donc, à l'ENSI, on est suivi par un directeur de diplôme et Xavier et moi avons eu le même directeur. Donc,
qui est Philippe Ribon.
Salutations distinguées. Et donc, c'est vrai qu'on a, on va dire, bénéficié peut-être. Enfin, on a eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui était à nos côtés, qui a une grande ouverture. Mais c'est pas, enfin, c'est pas la, j'allais dire la chance, mais c'est pas forcément une chance, mais.
Si, si, c'est une chance, hein. Moi, il a vraiment changé la vision que j'avais du design. Ouais, c'est... de ce qu'on pouvait se permettre en tant que designer, en fait.
Complètement.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black. Nous diffusons la seconde partie de notre interview avec Xavier Montois, Arthur Donald-Bouillet et Lisa Dehove, où nous discutons des outils du design face au couple vivant artificiel et humain non humain.
Chez toi, Arthur, y a des objets transitoires, il y a des objets de médiation, il y a des dessins qui sont aussi des dessins, des espèces de traductions, de compréhension de la matière à des endroits infimes où on essaie de programmer la matière. Effectivement, quand on est designer, on peut avoir cette injonction à produire un objet. Et là, vous n'êtes pas allé dedans. Et je trouve ça remarquable, en fait, d'être allé jusqu'au bout. C'est courageux, en fait.
J'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas pour toi, Xavier, mais j'ai l'impression que ce qui a été... en fait, le projet en lui-même est... Enfin, c'est toute la recherche, quoi. C'est pas l'objet, il n'y a pas d'objet final, véritablement, quoi. J'ai l'impression que moi, dans mon cas, en tout cas, c'est ça qui a vraiment beaucoup changé dans mon diplôme. C'est finalement que c'est l'entièreté qui fait sens, en tout cas, à mes yeux, quoi. Et pas un seul objet qui devrait répondre à une problématique ou à un usage précis, quoi.
Mais en fait, finalement, même le projet, c'était... comment on retranscrit des questionnements et une réflexion sur une problématique. Typiquement, dans mon cas, c'était vraiment quel rapport on peut avoir avec le vivant qui nous entoure. Dans mon projet de diplôme, en fait, il y avait trois parties. Une, justement, où c'était vraiment la confrontation d'objets artificiels, enfin, dits artificiels et d'objets naturels, pour les confronter et créer des sculptures avec, pour voir justement ce que ça pouvait provoquer. Est-ce que de les assembler, de les confronter l'un et l'autre, ça permet de changer la vision qu'on a. Il y avait ensuite un projet autour des coléoptères, enfin des insectes, où en gros, là c'était pousser une réflexion un peu cynique et critique jusqu'au bout, qui était de dire aujourd'hui finalement les espèces qui sont les plus menacées d'extinction, c'est les insectes, enfin c'est la branche du vivant qui est le plus touchée par l'extinction de masse, et en fait ça a l'air d'embêter plus ou moins personne, enfin pas personne, mais c'est-à-dire qu'on est outré de voir la disparition des rhinocéros, mais les insectes personne en tient vraiment compte. Et la question que je me suis posée, c'est alors comment en tant que designer, moi, je peux m'intéresser à cette problématique-là.
Et oui, donc tu disais que c'était cynique parce que tu utilises donc une matière première. Enfin, d'ailleurs, on retrouve les moustiques dans l'histoire que tu viens broyer.
Oui, c'est ça. Des moustiques, c'est des coléoptères. Mais en effet, donc le postulat de base, c'était de dire comment empêcher la disparition de ces insectes. Et mon constat, c'était que les espèces qu'on exploite, ou alors pour lesquelles on a un intérêt financier ou qui ont de la valeur, c'est celles qui sont le moins menacées d'extinction. Que ce soit les vaches, les moutons ou autres. Et du coup, je me suis dit, ces espèces-là, elles n'ont aucun intérêt pour nous, si ce n'est les abeilles qui pollinisent nos plantes. Ou en tout cas, on leur voit aucune utilité. Donc est-ce que si j'arrive à ajouter une valeur financière à ces insectes-là, ça ne va pas permettre de les sauver, ne serait-ce que de manière artificielle, de l'extinction. Du coup, en fait, j'ai commandé 10 000 élytres. Donc les élytres, c'est la partie de la carapace qui protège les ailes des coléoptères, qui venaient de Thaïlande, qui sont des élytres iridescentes. Et ensuite, je les ai broyés et coulés dans des résines pour m'en servir comme matière première et ensuite créer des sortes de sculptures. Et l'idée, c'était de se dire, si finalement ces objets-là se vendent, ça va motiver à utiliser les coléoptères comme matière première et donc ça va pousser à en faire des fermes de culture et d'élevage, et ce qui va donc permettre d'éviter leur extinction, ne serait-ce que de manière artificielle. Donc bien sûr, le but du projet, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'était de pousser cette réflexion jusqu'au bout pour nous mettre un petit peu face à nos contradictions, en tout cas face à la manière dont le monde marche aujourd'hui, quoi.
J'aimerais bien qu'on lise un extrait de tes écrits, Arthur.
Avec plaisir.
L'extrait qu'on va lire, il s'appelle Compagnonnage. Il fait partie d'un recueil de textes que tu as récemment publié.
Oui.
Auto-publié, en tout cas.
Oui, oui, oui.
Ça rassemble des écrits fictionnels et puis il y a des espèces de qui sont de la SF un peu au sens large, au sens de je pense de Donna Haraway. Elle parle de science-fiction, speculative fabulation, string figures et so far, pour exprimer en fait la façon dont elle peut faire de la SF. J'ai retrouvé ça, j'ai trouvé aussi des très belles expressions, les civilisations parentes et compagnes. Les relations inter, intra-espèces mutuelles, des agglomérés plus que vivants, des thèmes qui nous sont chers comme la bioimpression 3D, l'ingénierie tissulaire, le bricolage génomique, la biologie synthétique. Et il y a aussi les organoïdes ont aussi leur part, les peaux artificielles, les organes greffés. tous qui sont des objets techniques, en fait. Si on voudrait les définir un peu clairement, ce sont des objets techniques, biotechnologiques, vivants et artificiels. Alors, peut-être tu peux commenter un peu la valeur que ça peut avoir, ces écrits à tes yeux, ou le statut que tu veux leur donner.
En fait, je les ai écrits comme une manière de regrouper, on va dire, plein de réflexions, plein de points, en fait, qui étaient très importants pour moi, quoi. En fait, je pourrais les comparer presque à une sorte de mind map, finalement, mais dans laquelle j'essaie d'insuffler aussi d'autres éléments, on va dire, entre guillemets, plastiques, sensibles, voilà. Et surtout, pour moi, même si, du coup, au départ, le but, c'était pas forcément de les publier, même si, du coup, je trouve ça intéressant, de les partager, puis d'avoir d'autres regards extérieurs, en fait, sur ce que ça peut représenter, ce que ça peut vouloir dire. C'est l'idée d'essayer de poser des questions, ou de me poser des questions à moi-même sur qu'est-ce que ça veut dire, un objet vivant, ou en tout cas quelque chose de vivant, qui a potentiellement été artificialisé. Donc, tu le soulignais, je parle de matrice extracellulaire, de tissu, enfin d'ingénierie tissulaire. Et donc, à partir de quel moment, en fait, cette chose devient un objet, quoi. À partir de quel moment elle est standardisée, à partir de quel moment elle bascule de l'inerte au vivant. Et du coup, à partir de quel moment, en fait, elle fait pas partie de moi, quoi. Et donc, comment je peux tisser des relations avec ce vivant-là, quoi.
Et c'est vrai que, enfin, moi, d'avoir lu l'entièreté de ton recueil, je me suis retrouvée à la fois, il y a des passages de pure SF, enfin de science-fiction telle qu'on pourrait la lire par ailleurs, et il y a des endroits où j'ai senti, en fait, où je me suis sentie un peu, comment dire, un peu prise dans les mêmes plis dans lesquels t'es, je pense, où, comme je travaille, je suis intégrée dans un laboratoire de technologie, où je me retrouve parfois à suivre donc des scientifiques sur le terrain, et puis à devoir écrire pour mettre à plat l'expérience que je viens de vivre, en fait, qui est aussi une expérience sensorielle, qui est aussi une expérience de perception, qui est, voilà, quand eux, ils parlent de matrice extracellulaire, qui est donc effectivement le milieu de vie d'une cellule, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je peux le traduire, comment est-ce que tout de suite je peux aller poser des sensations dessus. J'avais eu ça aussi sur l'AFM, par exemple, sur le microscope à force atomique, où je m'étais finalement surprise, en fait, à avoir vraiment besoin de me poser après ça, et puis d'avoir comme un moment d'écriture automatique. Alors, je sais pas, voilà, aussi.
Exactement, c'est ça, oui. C'est purement instinctif, en fait.
Besoin de traduire, quoi, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, et tout ça, toi, tu le... Enfin, moi, c'est vrai que c'est assez identifiable, c'est souvent, j'ai besoin de le faire presque un peu tout de suite après, pour ressaisir un peu l'instant de ce qui vient d'arriver. Toi, tu t'arrives, je sais pas, à emmagasiner peut-être plein d'informations, plein de dialogues, plein de conversation, et puis après avoir besoin de faire ses écrits, ou...
Arthur Donald Bouillet.
Il y a effectivement l'expérience que t'as vécue et qui te donne envie d'écrire. Et puis après, il y a effectivement des choses. Il y a notamment dans le recueil quelques textes qui sont en rapport avec le microbiote cutané, par exemple. Là, j'en parlais dans ce texte-là. Mais c'était aussi comment arriver à rendre visible, parce qu'en fait le but de mon diplôme, c'était de poser, enfin d'interroger sur la manière de percevoir ce qui est vivant ou ce qui n'est pas, quoi. Et en fait, du coup, de dire à partir de quel moment je suis en face de quelque chose qui est potentiellement un être, enfin quelque chose de vivant. Et pour ça, c'est la perception, en fait, qui joue beaucoup, quoi. Comme pouvait le souligner Xavier par rapport au cafard, à partir de quel moment on a une forme de considération ou une forme d'empathie, en fait, puisque c'est entre autres choses ça qui est relié, mais il y a, en tout cas, c'est une forme de sensibilité qui est toujours personnelle, quoi. Et donc, pour moi, c'était important de le faire par l'écrit, effectivement, quoi.
Xavier Montois.
Ouais, sur la question d'empathie, c'est vrai que je sais pas, d'ailleurs, merci de le soulever, je sais pas si j'en ai parlé avant, mais en fait, c'est vrai que le spectacle de danse synchronisé de Cafard, hein, c'était aussi... Alors, c'était pas forcément voulu, mais en fait, il y a deux choses assez marrantes qui se sont passées. C'est que ça a, je pense, changé la perception, ou ça a permis à certaines personnes de se rendre compte d'incohérences dans les considérations qu'on a pour certaines espèces. Par exemple, la première réaction qu'on a généralement quand on voit un cafard, c'est de vouloir l'écraser ou de s'en débarrasser. Personne ne veut avoir des cafards chez lui. Alors que là, comme c'était quelque chose, je contrôlais un cafard par une puce électrique, donc il lui envoyait des impulsions électriques pour le faire tourner à gauche ou à droite. Là, les gens trouvaient ça horrible de contrôler, donc, de manière électrique, un animal. Et je pense que c'est la première fois, pour la majorité de ceux qui ont vu de la vidéo, qu'ils avaient de l'empathie pour un cafard. Et ce qui est marrant, c'est que donc ça provoquait une réaction un peu de malaise ou d'incompréhension, mais on l'acceptait parce que c'était un cafard, justement. J'aurais fait ça avec un bébé lapin ou autre, ça serait jamais passé.
Est-ce que tu as un petit peu analysé, du coup, quelles ont été les réactions, justement, du public qui a été confronté à cette vidéo ou à ces objets-là?
Oui, bah, la réaction première, c'est généralement... Alors, il y a deux types de réactions, en fait. Par exemple, il y a quelque chose d'assez... Une petite anecdote, c'est que ce projet-là, il a été republié sur un compte Instagram qui a pas mal de followers, qui s'appelle Studio Design. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois où j'avais pas, où c'est pas moi qui présentais le projet. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un texte qu'il présentait, mais qui était assez court. Du coup, je pouvais pas rentrer dans les détails. Et donc là, c'est vraiment c'est à chaque fois des réactions radicales. C'est soit, mais t'es un malade, on fait pas ça aux animaux. Des gens qui ont tagué la PETA et Brigitte Bardot sur mon compte pour les alerter de ce qui se passait. Et d'autres qui me disaient, ah, mais bravo, c'est super, c'est génial, etc. Mais en fait, je pense que mais ça, c'est quelque chose que disait aussi David Benke dans une de tes interviews. C'est-à-dire que ce projet-là, moi, quand je le présentais au début, c'était vraiment de dire, eh ben, en fait, justement, je veux susciter des réactions ou que ce soit un support pour faire réagir les gens. Et en fait, je pense que non, pas du tout. C'est vraiment, finalement, une vision personnelle sur un sujet que je présente aux gens. Et ensuite, il peut y avoir une discussion, non, mais je pense pas que le projet en soi soit un support de discussion.
Mais parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est l'une des grandes problématiques du design fiction ou du design spéculatif, notamment justement c'est des personnes comme il y en a pas mal hein, mais toute la clique d'Alexandre
Desine,
ouais voilà toute la clique anglo-saxonne exactement où en fait il y a des choses qui se passent typiquement donc c'est pas Benke mais si c'est Benke avec l'implant dentaire.
Non, ça c'est James Hogger.
Pardon, voilà, James Hogger. Il y a une manière où, en gros, l'objet est tellement, enfin, le projet, enfin, sa communication porte tellement loin que parfois, en fait, elle divulgue des informations, mais sans qu'il y ait vraiment sans que le fond du projet soit communiqué. Donc, à la fois, c'est super intéressant parce que ça montre à quel point, en fonction des cultures, il y a des acceptations, mais en même temps, du coup, ça peut ouvrir la voie à d'autres choses, quoi.
Pour remettre juste un peu d'éléments de contexte, donc les pratiques dont on parle, c'est des pratiques dites de design fiction, de design spéculatif, qui sont nées plutôt à la fin des années 90, et notamment sous la plume d'Anthony Dune et Fiona Rabi, qui ont vraiment outillé en fait ces pratiques-là et qui ont pu les transmettre à des étudiants. Ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles disent que c'est un design for debate, donc pour le débat. Et ce qu'on leur reproche généralement, à juste titre, c'est de faire du design for debate, mais de jamais prendre en considération ce débat comme un matériau à part entière, et puis
de l'accompagner aussi, quoi.
Ouais, puis d'en faire un truc, un truc, ça veut rien dire, mais de porter, du coup, de montrer à voir, montrer à lire ce débat-là. Et l'autre projet dont tu parles, donc l'implant dentaire, c'était un projet spéculatif qui a été notamment en première de couverture du Times, où il était présenté que des chercheurs avaient réussi à mettre c'est un moment un peu spécial où la nanoélectronique, je pense, était peut-être pas autant répandu, peut-être qu'au moment exact où il a fait le projet qui devait être les années 2000. Et donc, il présente ce qui serait un téléphone implanté dans une prothèse dentaire. Et effectivement, une fois que ça a fait la une du Times et que c'est repris comme si c'était un vrai projet, là, c'est sûr qu'à la limite, là, le débat fonctionne très bien.
Oui.
Mais souvent, ce qui est aussi reproché à ces projets-là, c'est qu'ils peuvent rester un peu dans les musées, quoi, et pas sortir.
Puis c'est rarement des projets autonomes, en fait. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est toute une réflexion autour d'un sujet qu'on propose, l'objet ou alors ce qu'on présente en soi, enfin l'objet physique, il suffit pas du tout diffuser toutes ces réflexions-là. C'est-à-dire que, pour mon exemple personnel, une vidéo, quand je montre une vidéo, on voit juste des cafards avec des petits costumes qui dansent. Ça a été exposé une fois à Milan en 2018. Et en fait, sauf les fois où j'étais là pour en parler et lancer la discussion sur ces problématiques-là, la plupart du temps, les gens comprennent pas ou vont pas lire des textes de 2 pages à 4 pour pouvoir comprendre ce que c'est, quoi. Ils vont juste regarder et c'est l'impact visuel qui va primer sur le fond du projet, finalement.
Ouais, tu, peut-être redonner le contexte de cette exposition. C'était pour la Triennale de Milan.
Oui, c'était pour la, oui, pour la Triennale de Milan. On exposait à l'Institut français une exposition qui s'appelait Matter Matters et dans laquelle il y avait différents projets et dont mon projet de diplôme. Ouais.
Et ouais, et c'est cette année-là donc il y avait aussi une section française qui a été commissionnée par Catherine Gell. Et la triennale en question s'appelait Broken Nature. Elle a été pensée par Paola Antonelli, qui est curatrice du MoMA. Et bon, bah, je ne sais pas si vous l'avez fait entièrement. Il y avait des projets hyper passionnants, mais il y avait aussi une posture un peu, quand même un peu solutionniste du design vis-à-vis de cette broken nature. Donc, je crois même que Paola Antonelli va jusqu'à écrire voilà, les designers nous permettront de mourir plus dignement, enfin, avec plus de beauté,
plus dignement,
plus dignement, voilà, dans ce moment-là, et puis pourront trouver des solutions. Okay. Enfin, j'ai trouvé autant l'exposition magnifique et super intéressante, et autant certains textes qui l'accompagnaient beaucoup plus problématiques, enfin, sur le rôle des designers, je sais pas.
Non, mais c'est sûr que cette problématique-là du designer qui va sauver le monde, elle est présente, et en fait, elle-même, je dirais presque enseignée, en fait. C'est-à-dire que moi, dans tout mon cursus scolaire, je me suis dit, tous mes projets, c'était, mais c'est vrai qu'il faut qu'on apporte une solution à une problématique, etc. Et c'était même finalement presque des démonstrations, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une problématique à laquelle on répondait de manière hyper construite, et en fait, on justifiait finalement notre projet pour montrer qu'on apportait une réponse à la question. Alors après, ça c'est peut-être un peu plus spécifique à l'ENSI, mais où finalement, par exemple, tu parlais tout à l'heure, quand on parlait des outils, de la représentation plastique beaucoup plus libre, etc. Finalement, alors ça c'est... Je critique pas l'ENSI pour ça, c'est juste moi en tout cas comment j'évolue au sein de l'ENSI, où à aucun moment je me suis vraiment attardé sur ma pratique plastique personnelle. C'est-à-dire que c'était toujours faire des projets qui répondaient à une problématique. En fait, justement, pour revenir sur Philippe Héribon, c'est la première fois où quelqu'un m'a vraiment poussé et m'a forcé en fait à avoir une pratique plastique et à l'assumer comme telle. Parce que je trouve que c'est aussi assez dur aujourd'hui en tant que designer de pas apporter une réponse à une problématique. C'est-à-dire que quand on fait un projet purement plastique, eh ben c'est compliqué de l'assumer, je trouve, parce que c'est tout de suite ah mais ça sert à quoi, ah mais pourquoi tu fais ça, etc. Alors qu'en fait la plupart des projets qui disent apporter une solution, ben pour moi c'est aussi un petit peu une en fait c'est juste une image et qui est pas forcément suivie des faits. C'est-à-dire que il y a énormément de projets qui sont des projets, c'est-à-dire qui n'ont pas de réalisation ou de concrétisation, qui nous disent on va remplacer le plastique par tel matériau, etc. Alors qu'en fait...
Qui sont des projections, mais la partie réalisation de ce projet-là n'est pas forcément mise en œuvre.
Voilà, c'est ça. Ou alors il y a un vrai travail de recherche dessus d'ailleurs, et ce qui est très bien, parce que oui, je pense que si on arrive à remplacer le plastique par d'autres matériaux, c'est bien, mais je pense que ça amène aussi une problématique qui est de nous empêcher de vraiment... repenser des usages, et ce qui pourrait du coup nous permettre beaucoup plus facilement de changer les choses. Par exemple, si on dit on a trouvé un nouveau matériau pour remplacer le plastique, on va pouvoir faire plein de sacs plastiques biodégradables. En fait, ça va rien changer du tout, parce que ça veut dire que nos modes de consommation n'auront pas changé. C'est comme pour les biocarburants. En fait, si on met au point un biocarburant, ça va quand même être un désastre, parce qu'il y aura forcément
de la transformation de matière
en quelque chose. Et ça veut dire qu'on va continuer à remplir nos avions, nos voitures, etc. de biocarburant. Et en fait, on ne se pose pas vraiment les vraies questions.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black. Nous diffusons la seconde partie de notre interview avec Xavier Montois, Arthur Donald-Bouillet et Lisa Dehove. Marie Truffier.
Dans tous les projets qu'on a évoqués, je trouvais que c'était intéressant la manière dont en fait vous présentiez vos travaux, parce que j'ai l'impression que ça transforme aussi la volonté qu'ils ont à apporter. C'est-à-dire, là tu parlais d'animisme, de chamanisme, tout à l'heure on parlait d'un test Covid qui est très fonctionnel, et tu faisais des balais avec des cafards, et j'ai l'impression que il y a une question qui se pose dans la manière dont on envisage le design, si c'est pas il y a un truc un peu de grosso modo de comme tu disais Xavier, à l'école, on t'apprend à répondre à des questions, t'as une problématique, toi, t'es un peu le mec là, qui sauve la start-up, qui lui trouve une solution de copier-coller. Et là, dans tout ce qu'on nous propose ici dans la discussion, c'est plus des projets, des écrits, des images qui sont là pour ouvrir des imaginaires et qui sont un peu comme Donna Haraway évoque, qui sont un peu ces sophares, ces moments de transitoire où les choses s'ouvrent un peu. Et je suis en train de me demander si est-ce que la pratique du design elle est pas aussi dans la pratique d'un autre qui est pas encore fait et qui donne à être à montrer, et donc on se sert du design comme le média, comme ce qui est amené aux autres parce qu'il est montrable. Enfin, je sais pas comment dire, mais il devient médiation entre une pensée et une réalisation et devient terrain de discussion, de débat, de...
Ça me fait penser ce que tu dis à comment le design devient un traducteur, effectivement, de choses qui sont imperceptibles, qui sont déjà là, mais peut-être difficilement saisissables, c'est ce que tu disais. Et du coup, devient ce média, en tout cas, ou transforme quelque part ce difficilement saisissable, peut-être la vie liminale, peut-être l'entre-deux, peut-être le vivant, l'artificiel, et le rend perceptible, visible, racontable, etc. quoi. Ouais.
Mais après, c'est peut-être aussi le design, c'est souvent, enfin, bon, je sais pas si le design, c'est aussi répondre à des besoins, ou en tout cas, que ce soit Raymond Lévy par exemple, qui au début, je vais commencer à parler d'histoire du design et tout ça, l'enfer. En gros, Raymond Lévy, il a capoté des objets produits par l'industrie qui étaient horribles et il les a rendus beaucoup plus jolis, désirables pour les gens.
Donc c'est le mouvement de
streamline, etc. Donc ça répondait aussi à un besoin ou pas, mais en tout cas de faire rentrer des objets dans le domicile des gens. Enfin, en tout cas, c'est les gens qui avaient envie d'un... En gros, le truc que je veux dire, c'est que le design, ça a toujours... j'ai l'impression que ça a toujours perçu un petit peu les tendances ou les envies de la société, et ça les a retranscrits à travers différents moyens. Mais en fait, c'est peut-être juste aussi aujourd'hui que le design change, ou en tout cas qu'il est différent, mais parce qu'aussi les envies et les besoins des gens changent. C'est-à-dire que peut-être que les gens, ils se rendent compte aussi aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin d'acheter énormément d'objets, etc., mais qu'il y a besoin d'autres choses. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, les designers, ils peuvent se permettre de proposer... à travers différents médiums, des visions ou alors des potentiels mondes futurs ou relations, pour en venir à notre sujet.
Il y a ça, et puis il y a potentiellement, il n'est pas que à l'écoute des envies ou des besoins. Je pense qu'il est en train de... Enfin, après, c'est peut-être ma position personnelle, mais en fait, il est en train de peut-être de se positionner assez différemment et de dire, plutôt que des envies, des besoins, j'ai envie de proposer et de devenir un autre design dans ce moment hyper particulier qu'on vit, qu'on peut appeler d'anthropocène, qu'on peut parler d'effondrement, mais on peut parler même de choses beaucoup plus tangibles, juste érosion de la biodiversité, précarisation à outrance, enfin, etc. Et du coup, effectivement, est-ce que tu veux participer de cette précarisation ou de cette perte de diversité ou autre problème ou,
Je pense que c'est la prise de conscience générale de la société qui se reflète dans le design, parce que les designers font partie de la société aussi. Enfin, on est des gens comme les autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui ont conscience des enjeux écologiques, du non-sens de nos modes de production, etc. Et parmi tous ces gens, il y a des designers. Et du coup, les designers ont plus envie de faire du design comme avant. Je pense que
puis il y a aussi le fait que nous on a été à partie liée avec ce mode de production et avec l'industrie, donc aujourd'hui se dire que on va participer à cette industrie là qu'elle soit 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, comment est-ce qu'on fait pour soit s'en défaire de cette relation à l'industrie et créer d'autres modes de production, soit questionner ces modèles industriels-là. Enfin, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de design industriel, parce qu'au fond, je pense que... Enfin, ça serait une autre discussion à ouvrir, mais en fait, ça dit aussi ça. iGEM, les biobriques, c'est une industrialisation de la biologie synthétique.
C'est une nouvelle industrie naissante, oui.
Quand on parle de hauts procédés biotechnologiques, c'est pareil. On est dans des procédés qui sont aussi à échelle industrielle. Là, de revenir à une pratique plastique où on a la maîtrise de ce qu'on fait et aussi de peut-être de tourner dos aussi à cette industrie, c'est peut-être un choix, enfin, qui est fait, quoi. Après, bon, à présager, je sais pas de ce que ça donne, mais.
Enfin, du coup, c'est mon point de cas. Par rapport à ce que tu disais, moi, je me suis typiquement demandé si j'étais toujours dans le design, quoi. Ou si je voulais rester dedans, en fait. Parce que j'avais l'impression que ma pratique s'inscrivait plus du tout dans ce que pouvait représenter le design, en tout cas au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces réflexions et puis aux manières d'en parler, quoi. Mais du coup, je trouve que ça pose des questions sur comment faire du design aujourd'hui, ou est-ce que je suis toujours un designer, en fait? Peut-être que je suis plus designer, au fond.
Un autre design est possible.
Ah, mais est-ce que, on a eu ce genre de discussion, justement, à l'ENSI, moi, ça a été source de conflit, le point de basculement entre le designer et l'artiste, quoi, finalement. Et bon, on pourrait avoir cette discussion très longtemps, je pense, mais c'est une vraie question, quoi.
Après, ce qui est marrant, c'est que moi, je fais le parallèle avec ce sur quoi je travaille et où, pour le coup,
Lisa de Hove.
Le travail qu'on me demande en tant que designer, c'est un travail de design finalement assez classique où je fais du design produit, du graphisme, etc. Donc, ce qui est plutôt inhabituel, c'est l'endroit où il vient se nicher, c'est-à-dire de venir solliciter un designer en tant que labo de recherche. Ça, c'est plutôt nouveau, mais finalement le travail de design classique entre guillemets, il peut aussi se réinventer et changer, de se déplacer, se décaler, se venir se nicher dans des nouveaux endroits, donc voilà.